désolé. Hein. C'était indiqué sur l'autoroute. Grosse chaleur, hydratez-vous. Et non, oui. Alors, ça nous apprend d'une part qu'il fait chaud. Il fallait que le gouvernement nous le dise. Et puis, ça nous dit ce qu'il faut faire aussi quand il fait chaud. Il faut boire. Hein.
Et surtout, pas envoyer les ingénieurs par la fenêtre. Ça peut donner des idées à ceux qui nous manquent.
Bon, alors, qu'est-ce que la joie chrétienne ? Tous nous sommes marqués chaque année par ce moment intense où, dans la nuit de Pâques, autour du feu qui vient d'être allumé et béni, la flamme de la résurrection nous est transmise. Nous nous tournons vers notre voisin pour lui transmettre la flamme que nous venons de recevoir d'un autre. Et nous constatons qu'en donnant ce que nous avons, non seulement nous ne perdons pas notre propre flamme, mais nous accroissons la lumière dans la nuit en la transmettant. Ainsi en va-t-il de la joie. En la donnant, non seulement on ne la perd pas, mais on l'augmente. Il paraît que le cardinal Marty, archevêque de Paris, racontait volontiers cette petite histoire que Père Bernard nous raconte souvent. Il était un jour dans son bureau. C'était un dimanche après-midi d'hiver, parisien comme tant d'autres, pluvieux, gris, morne et triste. Et l'archevêque avait le cafard. On frappe à la porte, un prêtre entre, l'évêque l'accueille et le fait asseoir. Le prêtre s'assied et confie à l'évêque : « Monseigneur, je viens vous voir parce que j'ai le cafard. » Que faire ? Monseigneur l'écoute, puis il lui parle, l'encourage, le réconforte. Et après avoir passé un moment ensemble, il le raccompagne. Et l'archevêque concluait : « Je ne sais pas si je lui ai rendu la joie, mais moi, je l'avais retrouvée. » Quelle est donc cette joie véritable qui augmente au fur et à mesure qu'on la donne ? Pour nous interroger donc sur la joie chrétienne, nous allons tout simplement procéder sous trois angles. Nous regarderons dans une première partie la joie dans l'Évangile, puis nous scruterons la joie des saints, et dans une troisième partie, nous approfondirons la joie de l'Église. Commençons donc par regarder la joie dans l'Évangile. On peut souligner d'abord la joie très brièvement de Dieu le Père. Elle est visible dans la parabole que Jésus nous raconte du fils prodigue à travers l'accueil que le Père fait à son fils qui revient. Le Père, on le connaît bien, tente d'expliquer à son fils aîné « Il fallait festoyer et se réjouir car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie, il est perdu et il est retrouvé. » Dans l'Évangile, évoquons ensuite, la joie de Jésus. Alors, on va évoquer un seul passage, je vais le faire très brièvement, sœur Gaëtane reviendra dessus demain. C'est un petit passage tiré de l'évangile de Saint-Luc. Saint-Luc qui est appelé à juste titre l'évangéliste de la joie, puisque c'est celui qui souligne abondamment la joie dans son évangile. Et donc, Jésus a envoyé en mission ses 72 disciples. Et au terme de la mission, les disciples reviennent tout joyeux en disant à Jésus « Même les démons nous sont soumis en ton nom. » Et Jésus les reprend gentiment en leur disant que telle ne doit pas être la source première de leur joie. Jésus leur dit « Ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Donc la joie fondamentale que Jésus nous révèle, c'est la joie du salut, la joie d'avoir nos noms inscrits dans les cieux. Et Jésus ne dit pas « vos noms seront inscrits dans les cieux », il dit à ses disciples « vos noms sont inscrits dans les cieux ». Et saint Luc ajoute « à l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit-Saint et il dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange ». Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. » Et il prolonge ensuite, « Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » La joie de la Vierge Marie. Nous voyons cette joie pure aussi réalisée en la Vierge Marie dès avant la naissance de Jésus. C'est la joie de l'accueil de la parole du Seigneur. Comme le fait remarquer Joseph Ratzinger, la joie est un signe de la grâce. Celui, dit-il, qui est joyeux du fond du cœur, celui qui a souffert et n'a pas perdu la joie, celui-là ne peut pas être loin du Dieu de l'Évangile dont le premier mot au seuil de la Nouvelle Alliance est « Réjouis-toi ». Ratzinger dit dans un autre passage « La joie est le premier mot de l'Évangile. » Quand l'ange Gabriel se présente à la Vierge Marie, il lui dit « Réjouis-toi ». En grec, l'Évangile est écrit en grec, qu'on traduit en latin « Je vous salue ». Mais « Réjouis-toi ». Donc la joie est le premier mot de l'Évangile, le premier mot du christianisme. Et peu après, cette joie profonde éclate dans le Magnificat, où on voit à nouveau que la raison de la joie de la Vierge Marie est la présence du Sauveur en elle et le salut que Jésus, son Fils, apporte à son peuple. Mentionnons brièvement aussi la joie de Jean-Baptiste. Elle s'exprime d'abord dès avant sa naissance, lors de la visitation, quand Jean-Baptiste tressaille dans le sein d'Élisabeth, encore une fois à l'approche de Jésus, à cause de la présence du Sauveur. Et puis plus tard, au début de la vie publique de Jésus, des disciples de Jean viennent le trouver et lui disent, en parlant de Jésus, « Celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise et tous vont à lui. » Ils sont embêtés quand même, parce que les gens abandonnent, les disciples de Jean-Baptiste sont embêtés, parce que les gens abandonnent Jean-Baptiste pour aller à Jésus. Et Jean leur répond, « Vous pouvez vous-même témoigner que j'ai dit, moi je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là. Il entend la voix de l'époux et il en est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. » Donc la joie de Jean-Baptiste, c'est que Jésus se tienne là. C'est d'entendre la voix de Jésus et c'est cette joie ô combien pure que Jésus grandisse et que lui, il diminue. La joie des apôtres. Jésus parlera plusieurs fois aux apôtres de la joie qui leur est réservée. Nous avons déjà souligné que Jésus corrige avec beaucoup de bonté le motif de leur joie au retour de la mission. Quand il leur donne les béatitudes, Jésus leur dit « Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. » Drôle de joie, pouvons-nous penser. En réalité, il s'agit toujours de la même joie, la joie de la présence de Jésus. Parce que la présence de Jésus demeure et se fait même plus forte encore dans les situations difficiles. Voilà pourquoi la joie peut demeurer, voire grandir dans les situations difficiles si nous lui restons fidèles. C'est la joie de la fidélité dont Jésus avait parlé aussi aux apôtres, parce que cette fidélité prépare une joie plus grande encore. Jésus avait dit aux apôtres, « La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée, mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. » Les disciples, en effet, seront dans cette remplis de cette joie divine après la résurrection de Jésus, joie qui demeure à l'ascension. Benoît XVI a souvent commenté ce mystère de l'ascension parce qu'on en a souvent une perception assez fausse. L'ascension, ce n'est pas Jésus qui s'en va. Sinon, les apôtres perdraient la joie. L'ascension, c'est Jésus qui monte auprès de son Père, mais qui va être présent d'une manière nouvelle, mais réelle et très forte, comme il le promet précisément en s'élevant juste avant, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans les Actes des Apôtres, nous voyons combien les apôtres vivent de cette joie dont Jésus leur a parlé et qu'il leur a communiqué. Quelque temps après la Pentecôte, quelques semaines après la Pentecôte, les apôtres sont arrêtés pour avoir parlé de Jésus et sont fouettés. Quelle est leur réaction ? Saint Luc, qui a écrit les Actes des Apôtres, nous dit qu'ils vivent tout simplement les béatitudes. Il nous rapporte, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. On peut rapporter un petit fait amusant qu'on connaît peu, qui est rapporté dans les Actes des Apôtres. Saint-Pierre est en prison et il est délivré par un ange qui vient le sortir de sa prison, qui lui ouvre toutes les portes. Et donc, Saint-Pierre se retrouve conduit par l'ange à l'extérieur, dans la rue. Et une fois que l'ange a amené Saint-Pierre dans la rue, l'ange le quitte. Voilà ce que nous dit ensuite Saint-Luc. « S'étant repéré, Pierre se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean surnommé Marc, où se trouvaient rassemblés un certain nombre de personnes qui priaient. » Ils priaient pour Pierre. « Il frappa en battant au portail. Une jeune servante nommée Rodée s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir la porte, elle rentra en courant pour annoncer que Pierre était là devant la porte. » On lui dit « Tu délires !» Mais elle soutenait qu'il en était bien ainsi. Et eux se disaient « C'est son ange !» Et cependant, Pierre continuait à frapper. Ayant ouvert, ils le virent et furent dans la stupéfaction. Une morale de ce passage est qu'il faut que notre joie nous maintienne les pieds sur terre. Et voici un autre passage étonnant. Cette fois, c'est Paul et Silas qui sont en prison. Et comme ce sont... C'est bien connu, les chrétiens sont des prisonniers très dangereux, donc on les avait mis au fond de la prison avec les pieds coincés dans des blocs de bois. Et Saint Luc nous dit « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les autres détenus les écoutaient. » La scène est un peu surréaliste quand même, on est tout au fond de la prison, ils ont les pieds dans les blocs de bois. Et dans toutes les cellules autour, on les écoute parce qu'ils chantent au milieu de la nuit. Après quelques péripéties, ils convertissent leur geôlier. Et Saint-Luc nous rapporte que celui-ci fit monter chez lui Paul et Silas, fit préparer la table et avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu, parce qu'il a baptisé le geôlier dans la nuit. Et puis disons un mot encore pour finir sur cette première partie des épîtres. Voyons comment les apôtres ont parlé à leur tour de cette joie que Jésus leur a transmise. Dans les épîtres, on perçoit combien ils ont médité et vécu cette joie de l'Évangile. Ainsi, saint Paul énonce la joie comme premier fruit de l'esprit après l'amour. Dans la lettre aux Galates, saint Paul dit « Voici le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, etc. » Et aux Corinthiens, dans l'hymne à la charité, il affirme que l'amour trouve sa joie dans la vérité. Aux Philippiens, il enseigne que la joie vient de la présence de Jésus. « Soyez toujours dans la joie du Seigneur, je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. » Saint Jacques, comme son épître le montre, a beaucoup médité le sermon sur la montagne. Aussi a-t-il compris en profondeur la joie des béatitudes. Donc voilà ce que dit Saint Jacques, c'est le deuxième verset de sa lettre. C'est parfois un peu difficile à entendre. « Considérez comme une joie extrême, mes frères, de buter sur toutes sortes d'épreuves. » Considéré comme une joie extrême de buter sur toutes sortes d'épreuves. Saint Pierre, lui aussi, dans sa première lettre, associe la joie aux épreuves. « Vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves, elles vérifieront la valeur de votre foi. » Et Saint Jean, enfin, montre lui aussi le lien entre la joie et la vérité. « Rien ne me donne plus de joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Regardons maintenant dans une deuxième partie la joie des saints. Nous allons le faire en deux temps. Mais avant de commencer, évoquons, ça touche encore l'Évangile, les rois mages. L'Évangile nous dit « Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. » Dans le texte original, c'est même un peu lourd. « Ils se réjouirent fortement d'une grande joie. » En effet, le regard levé vers le ciel nous fait toujours retrouver la direction dans laquelle marcher, vers Jésus, la source de notre joie. Alors d'abord, quelle est cette joie des saints? La joie des saints, bien sûr, est celle même de l'Évangile. Mais la joie de chaque saint a sa note propre, liée à son tempérament et à son histoire. Écoutons quelques vers du poème bien connu de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. « Jésus, ma joie, c'est de t'aimer. » Donc sainte Thérèse. « Il est des âmes sur la terre qui cherchent en vain le bonheur, mais pour moi c'est tout le contraire, la joie se trouve dans mon cœur. Cette joie n'est pas éphémère, je la possède sans retour. Comme une rose printanière, elle me sourit chaque jour. Ma joie, c'est la volonté sainte de Jésus, mon unique amour. Aussi je vis sans nulle crainte, j'aime autant la nuit que le jour. » Si parfois je verse des larmes, ma joie c'est de bien les cacher. Oh, que la souffrance a de charme quand de fleurs on sait la voiler. L'amour, ce feu de la patrie, ne cesse de me consumer. Que me font la mort ou la vie? Jésus, ma joie, c'est de t'aimer. Ainsi, la joie profonde des saints que résume sainte Thérèse est d'aimer Jésus et de partager sa vie. Benoît XVI disait à des prêtres « La véritable joie est une chose différente du plaisir. La joie croît, donc c'est le verbe croître, grandit, mûrit toujours dans la souffrance en communion avec la croix du Christ. Ce n'est que de là que naît la véritable joie de la foi, dont les personnes non plus ne sont pas exclues si elles apprennent à accepter leur souffrance en communion avec celle du Christ. » Évoquons la belle figure de Carlo Acutis, un saint d'aujourd'hui qui parle à tous et dont on méconnaît encore la profondeur de la vie spirituelle et disons même presque mystique. Il est connu surtout pour son lien avec Internet, il y a des choses beaucoup plus... C'est intéressant, mais il y a des choses beaucoup plus belles encore à découvrir chez lui. Cet adolescent a la vie intérieure hors du commun et pourtant si naturelle dans la vie quotidienne, était capable de contaminer tout le monde par sa gaieté et sa joie. Il disait « La tristesse, c'est le regard tourné vers soi-même. Le bonheur, c'est le regard tourné vers Dieu. » Quelque temps après la mort de son fils, Antonia Acutis est réveillée une nuit par une voix intérieure. Et elle reconnaît la voix de Carlo. Et celui-ci lui répète « Testament ». Un peu intriguée, elle se lève et elle se rend dans la chambre de Carlo et elle a l'idée d'allumer son ordinateur. Et sur le bureau de l'ordinateur, assez en évidence, elle trouve une vidéo de quelques secondes où Carlo s'était filmé. Et on peut retrouver cette vidéo sur Internet. Carlo est installé tranquillement à son bureau. Il fixe d'abord la caméra avec un beau sourire. Puis il dit seulement, avec un sourire radieux, avant de lever les yeux au ciel, « Je suis destiné à mourir. » Et puis il fait un sourire merveilleux. Il tape une fois dans sa main et puis il se baisse pour couper son ordinateur. Voilà, vous pourrez trouver la vidéo, c'est assez impressionnant. Voilà, et il voulait montrer par là, sans doute il en avait un certain pressentiment, voilà, mais que sa joie c'était le ciel, cet adolescent de 15 ans, et voilà, c'était de retrouver Jésus un jour. Lorsque Rajesh, son domestique, qui est d'une famille où on avait pas mal d'argent, s'inquiéter, il n'y a rien de grave, hein, mais lorsque son domestique commençait à s'inquiéter de voir ses cheveux blanchir, hein, ça l'ennuyait beaucoup. Carlo, avec un brin de malice, mais avec une assurance étonnante, lui répondait « Quant à moi, je serai toujours jeune. » Et la Providence lui a donné raison. Alors, dans un deuxième temps, pour cette deuxième partie sur la joie des saints, nous allons parler un peu de l'humour des saints. Cette partie n'a pas pour but de faire rire, hein, mais de montrer la puissance intérieure des saints, parfois même dans des situations difficiles ou dramatiques, parce qu'ils étaient habités par Jésus et parce qu'ils étaient forts de leur fidélité à Jésus, et qu'ainsi ils gardaient une forme de hauteur surnaturelle en tout ce qu'ils vivaient. Alors il serait important, pour qu'on n'en reste pas, il y en aura plusieurs, mais qu'on n'en reste pas aux anecdotes, que chacun fasse l'effort, malgré la chaleur, de voir derrière chacune des petites histoires qui vont suivre le scintillement de charité qu'elle donne à voir de son auteur. Nous connaissons probablement tous Saint Laurent, qui, mourant martyr en l'an 258 à Rome, et qui a été brûlé sur un grill, je pense, comme martyr, on doit difficilement faire pire, et disant à son bourreau « C'est bien grillé de ce côté, tu peux me retourner. » Quelle domination, hein, de... Saint Philippe Néri, qu'on appelle le saint de la joie, savait donner de bonnes leçons. Ainsi, il demanda un jour aux deux servants d'autel qui portaient les cierges pendant la messe d'accompagner une personne qui quittait très souvent l'église immédiatement après avoir communié. Se voyant donc ce jour-là entouré en sortant de l'église par les deux servants en aube portant les cierges, sur une puis deux rues, le paroissien fut contraint de revenir sur ses pas et demanda à Philippe Néri le motif de cette demande. Et Philippe Néri lui rappela qu'après avoir communié, le Seigneur est présent en nous et que cela nécessite un moment d'action de grâce et pas une sortie furtive de l'Église immédiatement après la communion. Leçon originale qui fut bénéfique. Autre leçon un peu originale, Saint Clément-Marie fut un jour à Vienne abordé devant son confessionnal par une dame qui lui dit qu'elle ne souhaitait pas se confesser puisqu'elle n'avait pas de péché. Elle aurait pu lui faire la morale en lui disant « tout le monde a le péché, etc. » Non, il a interpellé le sacristain à l'autre bout de l'église et il lui a dit « André, viens prendre cette dame et mets-la sur l'autel, c'est une sainte. » Finalement, la dame fit une bonne confession. Donc, voilà une leçon spirituelle à travers ça. On connaît également la phrase de saint François de Sales que saint Jean Bosco dut inculquer à Dominique Savio « Un saint triste est un triste saint ». Alors évoquons quelques saints dans ce sens. Saint Jean 23 rendit un jour visite à Rome, de manière imprévue, à l'hôpital du Saint-Esprit, hôpital qui était tenu par des religieuses. Quand il se présente, la supérieure arrive, tout émue, assez impressionnée de l'arrivée du pape, et bafouille pour se présenter « Très Saint-Père, je suis la supérieure du Saint-Esprit ». Et le pape lui fait un sourire et lui répond « Eh bien, vous avez de la chance. Moi, je ne suis que le vicaire de Jésus-Christ. » Sur son lit de mort, au moment où Jean 23 recevait l'extrême onction, tout le monde pleurait autour de lui. Alors le pape, tapant à plusieurs reprises sur le bois de son lit, s'exclama « Allons, courage, courage! Ce n'est pas encore le requiem. » Et il ajouta avec profondeur « Ce lit est un autel. L'autel demande une victime. Je suis prêt. J'ai devant moi la claire vue de mon âme, de mon sacerdoce, du concile, de l'Église universelle. » Ouais. Vous voyez, avec un peu d'humour pour réconforter les gens, cette délicatesse de sa charité et en même temps pour leur donner le sens de ce qu'il était en train de vivre, sa mort, quand même. À propos du concile, on sait qu'en janvier 1959, Jean 23 en avait annoncé la convocation, à la surprise générale. comme Jean 23 évoquait comme date pour le début du concile l'année 1963, un prélat de la curie lui fit remarquer que c'était absolument impossible d'ouvrir le concile dès 1963. Le pape lui répondit alors « Eh bien, nous l'ouvrirons en 1962 ». Son humour et la bonhomie de son tempérament ne doivent pas occulter le sérieux avec lequel il considère ce moment très important pour l'Église. Il dira au cardinal Suenens « Une fois que le concile sera commencé, je sais bien la tâche qui me sera réservée, souffrir ». Ainsi, Jean 23 savait bien la profondeur de sa mission et il a vécu d'une manière magnifique la petite voix d'enfance de sainte Thérèse. Saint Thomas More est un homme délicieux, très érudit, très humble. Il écrit dans son ouvrage qui s'appelle « L'Utopie ». On me reproche de mêler boutades, facéties et joyeux propos aux sujets les plus graves. Avec Horace, j'estime qu'on peut dire la vérité en riant. Sans doute aussi convient-il mieux au laïc que je suis de transmettre sa pensée sur un mode allègre et enjoué plutôt que sur le mode sérieux et solennel à la façon des prédicateurs. Lorsque Thomas More refusera de signer l'acte de suprématie du roi d'Angleterre et de reconnaître par là même le remariage illégitime d'Henri VIII avec Anne Boleyn, Thomas More est envoyé à la Tour de Londres en prison. Donc la Tour de Londres était la prison de Londres. Ayant été chancelier du royaume, il est accueilli à la prison de la Tour de Londres par le directeur de la prison, qui lui dit espérer que le régime de la tour ne sera pas trop strict. Thomas More lui répond « Si je me plains de votre régime, mettez-moi à la porte. » Et là, en prison, Thomas More va s'unir profondément à la passion de Jésus sur laquelle il va écrire ses dernières méditations. Sa grande souffrance, sa terrible souffrance, sera l'insistance de son épouse et de sa fille préférée, qui toutes les deux le supplient de céder aux demandes du roi. Cela le plonge dans une immense solitude intérieure. Thomas More est quelqu'un de très humain. Il ressent l'inquiétude, la solitude, la souffrance. Et dans sa dernière méditation en prison, qui est intitulée « La tristesse du Christ », il écrit « Le propre du courage, c'est d'endurer ce qui est pénible, alors que celui de la stupidité, c'est d'être insensible dans l'épreuve. » Lorsque le 6 juillet 1535, il est conduit à l'échafaud, épuisé par 15 mois de prison, il doit demander de l'aide pour monter à l'échafaud et le fait avec son humour qu'il ne perd pas. « Je vous prie, lieutenant, de m'aider à monter. » Pour ce qui est de descendre, je m'arrangerai tout seul. Et après une ultime prière, il adresse un dernier mot à la foule, très profond. Je meurs fidèle serviteur du roi et de Dieu premièrement. Sainte Mère Thérésa. Sainte Mère Thérésa, on le sait, a connu une très longue nuit de la foi durant 50 années. Elle avait une vie de prière très profonde. C'est aussi une femme qui avait les pieds sur terre et qui avait une répartie remarquable, capable aussi de donner des leçons profondes. À un journaliste qui lui demande un jour ce qu'il serait nécessaire de changer dans l'Église, elle répond du tac au tac, « Vous et moi ». Et un jour où elle fait un pansement à un malade qui a une plaie particulièrement repoussante, un autre journaliste lui dit « Mère Thérésa, pour $1 million, je ne ferai pas ce que vous êtes en train de faire. » Et elle lui répond « Moi non plus. Pour $1 million, je ne le ferai pas. Mais pour l'amour de Jésus-Christ, oui. » Saint Jean-Paul II. Rapportons trois petits faits, on pourrait en écrire un dictionnaire sur Jean-Paul II. Le 12 mai 1982, donc le pape est à Fatima pour le premier anniversaire de son attentat le lendemain, et un projet de nouvel attentat contre le pape est déjoué à Fatima. Le cardinal, ça avait été déjoué en amont, donc ça n'a pas fait beaucoup de bruit. Le cardinal Casaroli, qui était secrétaire d'État, dit alors à Jean-Paul II, « La secrétairerie d'État a prié toute la nuit pour vous, Saint-Père. » Merci, Bernard. Et Jean-Paul II lui répond avec un sourire, « Dois-je comprendre que finalement on prie à la secrétairerie d'État ?» C'est l'époque aussi où on parle dans la presse de sa santé, très régulièrement en évoquant, pour ne pas dire en espérant, sa démission. Et un jour, on demande au pape, « Saint-Père, comment allez-vous » Jean-Paul II répond, « Je ne sais pas, je n'ai pas lu la presse encore aujourd'hui. » Voilà, et peu après l'attentat de 81, on présente à Jean-Paul II un modèle de papa mobile avec des vitres blindées. Jean-Paul II n'avait pas du tout aimé ça. Il peine à être convaincu, donc il faut le convaincre. Et les services de sécurité expliquent au pape que cette mesure est désormais nécessaire. Alors on lui dit « Cela limite les risques, car on s'inquiète pour votre sainteté. » Et lui répond « Moi aussi, je m'inquiète pour ma sainteté. » Mais il avait le souci, merci, voilà, de ceux qui l'entouraient, et il avait le souci de sa sainteté. Benoît XVI a été profondément méconnu. Loin de l'image souvent véhiculée, c'était un homme doux, humble, très agréable à vivre. Voici quelques lignes du témoignage de son secrétaire, Monseigneur Georges Gunzwein. Le pape Benoît était un homme doté d'un grand sens de l'humour. Il aimait quand, même dans les questions difficiles, l'humour n'était pas totalement mis de côté, car il peut fournir une sorte d'ancrage et aussi une sorte de fil qui nous conduit vers le haut. Ainsi, j'ai pu remarquer ici et là comment dans des situations difficiles, que ce soit en tant que cardinal ou en tant que pape, il essayait, non pas d'apporter une sorte de tournant drôle, ce qui semble trop superficiel, mais d'apporter une once d'humour, un élément d'humour qui pouvait désintoxiquer les choses. Et cela s'est avéré très précieux pour ma propre vie dans certaines situations difficiles, et je lui en suis très reconnaissant. Benoît XVI écrivait d'ailleurs « Où manque la joie et où disparaît l'humour, là n'est certainement pas l'esprit du Christ. » Et inversement, « La joie est un signe de la grâce. » Celui qui est joyeux du fond du cœur, celui qui a souffert et n'a pas perdu la joie, celui-là ne peut pas être loin du Dieu de l'Évangile. La joie pour lui était constitutive du christianisme. Il disait que l'humour était, sous un certain aspect, c'est son expression, un baromètre de la foi. Ainsi, le pape allemand confia un jour qu'il aimait avec ses secrétaires regarder parfois les films de Don Camillo et Pépone. Il savait aussi répondre de manière pétillante. Ainsi, le jour où il présenta son autobiographie, un journaliste un peu impertinent lui demanda, lors de la conférence de presse, pourquoi on ne trouvait pas de mention de petit ami dans le livre. Avec une étincelle malicieuse dans le regard, le cardinal Ratzinger lui répondit « J'étais obligé de m'en tenir à moins de 100 pages ». Finissons cette deuxième partie avec le père et Mère Marie Augusta, nos fondateurs. Mère Marie Augusta était une âme particulièrement proche de Jésus. Comme Marthe Robin, elle était à la fois très proche du ciel et très présente aux réalités de ce monde. Une de ses premières filles raconte ce petit fait qui s'est déroulé à Lyon en 1947, où notre sœur accueillait une visite de ses parents. Voici ce qu'elle raconte. Mère Marie Augusta, qui avait spontanément le sens de l'humour, connaissant l'inquiétude de ma mère, qui avait peur de son austérité, lui dit, en montrant l'espace étroit entre un mur et un placard, Il faut qu'après ce carême, votre fille puisse passer entre le mur et le placard. Sœur Thérèse nous disait que Mère Marie-Augusta riait parfois jusqu'aux larmes quand notre sœur Luce racontait les mésaventures que lui valait sa légendaire distraction, la distraction de sœur Luce. Il y a quelques semaines, nous sommes allés visiter un couple d'amis portugais. Ceux-ci nous ont donné ce témoignage sur notre père fondateur. Il se rappelait ses conférences à la fois solides et profondes sur la foi de l'Église. Et ils ont ajouté, quand il sentait que c'était nécessaire, il faisait un petit mot d'humour ou une gentille plaisanterie pour reprendre notre attention. C'était très beau. Voici ce qu'écrit le Père dans notre règle. L'esprit d'enfance permet aussi de jouir de la douce joie familiale puisée dans l'intimité avec Jésus lui-même. Elle pourra s'exprimer gentiment dans l'humour et le rire spontané. Le cœur garde ou retrouve sa jeunesse dans une ambiance empreinte de douceur, de patience et de sollicitude mutuelle. Et il ajoute après, c'est intéressant, ça rejoint exactement le témoignage de Georges Gunswein sur Benoît XVI, il ajoute après avec beaucoup de réalisme, « Cependant, il faut se garder de trop plaisanter, même au cours des repas, aux dépens d'échanges sérieux. » Et après, il y a cette phrase qui est très belle, d'ailleurs qui rime en plus, « Un peu de sel est souhaitable, trop rend les plats détestables. » Et il ajoute, les rires trop bruyants et la plaisanterie à jet continu créent une ambiance superficielle et nuisent au calme nécessaire à la disposition à la prière. Terminons donc cette deuxième partie par quelques remarques. Tout d'abord, l'humour, le bon humour, n'est ni une fuite, ni un artifice de surface. Étant un signe de la joie chrétienne et un baromètre de la foi, il n'est pas incompatible avec la souffrance. Par ailleurs, comme on l'a vu à travers ces exemples, souvent mêlés à des sujets sérieux, l'humour peut être une forme exquise de charité. Ce peut être un moyen de mettre gentiment à l'aise, de détendre une situation, de transmettre ou de relever avec délicatesse des vérités importantes, ou encore de mettre en valeur avec douceur et finesse des choses ou des personnes qui ont besoin de l'être. Ainsi, les saints forment ensemble une mosaïque qui représente le visage de Dieu, ce Dieu dont l'Ancien Testament déjà dit qu'il est toute ma joie, et à qui le psalmiste fait cette prière, « Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. » Ce Dieu dont il est dit encore, « La joie du Seigneur est votre rempart. » Abordons notre troisième et dernière partie sur la joie de l'Église. Dans un livre intitulé « Invitation à la joie, essai sur la théologie de Joseph Ratzinger », alors c'est un livre intéressant parce que c'est un livre qui a été écrit par un théologien américain sur Joseph Ratzinger a tellement parlé de la joie de manière disséminée dans ses divers livres de théologie aussi et de l'importance de la joie pour le christianisme qu'il a présenté la théologie de Benoît XVI à travers ce prisme de la joie. Et donc c'est Monseigneur Raymond Santaine, évêque de Vannes, qui rédige la préface de l'ouvrage en français. Et il commence en rapportant cet épisode du roman de Bernanos, journal d'un curé de campagne, où dans une belle conversation, le curé de Torcy dit à son confrère « Le contraire d'un peuple chrétien, c'est un peuple triste. » Contraire d'un peuple chrétien, c'est un peuple triste. Et il ajoute « L'Église dispose de la joie, de toute la part de joie réservée à ce triste monde. » Dans cette troisième partie, voyons donc un peu ce qui fait la joie de l'Église, puisque la joie est la part de l'Église dans ce monde. On va le voir à travers quatre thèmes, la liturgie, la mission, la souffrance et la vie éternelle. Tout d'abord, la joie de l'Église est celle de la rencontre avec son Dieu. On a vu plusieurs fois dans le Nouveau Testament, c'est la présence de Dieu qui est la joie, la source de la joie. Et donc cette rencontre qui, sur terre, se vit avant tout dans la liturgie et par extension dans la prière. Benoît XVI écrivait aux jeunes dans le message pour la Journée mondiale de la jeunesse en 2012. La liturgie est par excellence le lieu où s'exprime cette joie que l'Église puise dans le Seigneur et transmet au monde. Ainsi, chaque dimanche dans l'Eucharistie, les communautés chrétiennes célèbrent le mystère central du salut, la mort et la résurrection du Christ. Un psaume proclame « Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie ». Dans la liturgie, en effet, tout est joie parce que nous célébrons, quand on dit nous célébrons, ça veut dire Dieu rend pour nous présents les mystères du salut. Benoît XVI décrivait cette joie de manière très belle en disant « c'est un don ineffable que le monde ne peut donner ». Et il ajoutait « on peut organiser des fêtes, mais pas la joie ». Qui d'entre nous n'a éprouvé très concrètement cette joie vécue dans la liturgie au cours d'une profession perpétuelle, d'une ordination, d'un beau mariage, d'une vigile pascale, ou plus simplement au cours d'une belle messe dominicale? La liturgie est le premier lieu de la présence et de l'action de Dieu, le premier lieu de la rencontre avec celui qui seul peut combler le cœur de l'homme. Elle est donc le premier lieu de la joie et donc aussi de la fête au sens le plus noble du terme. La mission. Dans les Actes des apôtres, saint Paul transmet une parole de Jésus qui n'est pas rapportée dans les évangiles. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Père Bernard nous dit de temps en temps que c'est la devise des rugbymen. Mais...
Des premières lignes.
Des premières lignes. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bon, c'est aussi et surtout la devise des missionnaires. Par là est soulignée la joie que l'on trouve dans le don. Or, la mission est essentiellement un don, un partage. C'est même le don et le partage de ce que nous avons de plus beau et de plus précieux, le trésor de la foi, le trésor de notre connaissance du seul vrai Dieu et de celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Au terme des JMJ de Madrid, Benoît XVI avait dit « On ne peut pas rencontrer le Christ et ne pas le faire connaître aux autres. Ne gardez donc pas le Christ pour vous-même. Transmettez aux autres la joie de votre foi. » Et le cardinal Ratzinger, donc c'est le même mais plus tôt, avait donné pour titre à l'un de ses livres sur le sacerdoce cette expression de saint Paul « Serviteur de votre joie ». Saint Paul dit en effet dans la seconde lettre aux Corinthiens « Il ne s'agit pas pour nous d'exercer un pouvoir sur votre foi, mais de contribuer à votre joie », en traduisant différemment d'être les serviteurs de votre joie. Joseph Ratzinger commente ainsi « Le fil conducteur de ces méditations, c'est la joie qui vient de l'Évangile. Aussi ai-je l'espoir que cet opuscule pourra contribuer quelque peu au service de la joie et répondre ainsi au sens profond de la mission sacerdotale. L'essence du sacerdoce, et on peut le dire par analogie de la vie consacrée et aussi de l'activité missionnaire de tout baptisé, donc l'essence, c'est d'être serviteur de la joie de ses frères, puisque la joie du chrétien est de connaître Dieu et de l'aimer, en étant proche de lui. Jean-Paul II écrit dans l'encyclique sur la mission « Nous devons entretenir en nous la passion apostolique de transmettre à d'autres la lumière et la joie de la foi. » Nous voyons d'ailleurs dans les Actes des apôtres, on l'a évoqué à de nombreuses reprises, on voit cette joie des disciples en annonçant l'Évangile. Et nous voyons, comme on l'a évoqué tout à l'heure, que cette joie ne disparaît pas, au contraire, dans les persécutions et dans la souffrance. Donc, troisième point de notre troisième partie, la souffrance. Ce thème pourrait surprendre dans une présentation sur la joie. Il en sera encore un peu question demain. Sœur Gaëtane nous en reparlera, mais le chrétien qui vit pleinement sa foi sait que la joie n'est pas incompatible avec la souffrance qui accompagne inévitablement la vie de tout homme. Donc il y a la joie de la persécution, on l'a vu, peut-être que c'est la moins difficile à comprendre, puisque on en voit plus directement le sens. On a vu les apôtres tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Il y a des souffrances qui sont moins directement la conséquence de notre foi. Même là, la joie du chrétien ne s'estompe pas. Saint Paul écrit « Maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. » Tant de saints nous en ont donné l'exemple. Ce n'est évidemment pas la souffrance comme telle qui est source de joie, mais c'est la fécondité de l'amour qu'elle peut générer. Benoît XVI disait « Avec le Christ et en lui, la souffrance est transformée en amour, et là se trouve la joie. » Et ailleurs, « La joie véritable n'est pas détruite, mais portée à maturité par la souffrance. » Seule la joie qui se maintient dans la souffrance et qui est plus forte que la souffrance est la véritable joie. Et puis pour la souffrance, mentionnons aussi le combat spirituel. On peut trouver une certaine joie humaine et légitime dans des performances sportives. On se réjouit du France-Espagne dans 3 jours. Parce qu'on y cherche le dépassement de soi-même. Il en est, bien sûr, bien plus profondément ainsi dans le combat spirituel. Le fait de vaincre ses défauts, de faire reculer certains points de notre caractère, donne aussi une vraie joie à nous-mêmes et à notre entourage. Dans le combat spirituel, parce que, eh bien, voilà, nous travaillons sur nous-mêmes, et c'est... aussi un travail pour ceux qui nous entourent. Mentionnons dans le combat spirituel la place du sacrifice qui nous décentre de nous-mêmes pour nous centrer davantage sur Dieu et sur les autres. Et c'est ce qu'avait compris d'une manière absolument étonnante Anne de Guigné, hein, qui est morte à 11 ans et qui a écrit vers l'âge de 10 ans, une petite fille de 10 ans, « La seule joie qui dure, c'est celle d'avoir fait un sacrifice ». Et rappelons ce que disait sainte Thérèse d'Avila, quand on est du parti du crucifié et du ressuscité, puisque Jésus est crucifié et ressuscité, on a de grandes épreuves et aussi d'immenses joies, souvent les deux ensemble. Et puis enfin, la vie éternelle. Nous savons que cette joie que nous pouvons goûter sur la terre n'est que le reflet de celle que nous vivrons au ciel, où nos désirs et nos aspirations seront enfin comblés puisque nous serons en présence de Dieu. La joie, on l'a dit, c'est la présence de Dieu, donc on la vit d'une certaine manière, même si c'est dans la nuit, dans la foi, on la vit sur cette terre, on la vit dans la liturgie, on la vit, voilà. Mais elle sera pleine, hein, dans le salut au ciel, dans la joie du ciel. Dans la parabole des talents, nous connaissons les mots du maître à ses bons serviteurs. Très bien. « Serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Et nous avons vu Jésus montrer aux disciples qu'elle devait être l'objet de leur joie parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Saint Jean, qui a vu le ciel s'ouvrir pour nous en communiquer quelques secrets, nous transmet ce cantique chanté par une foule immense au terme de l'Apocalypse. Soyez donc, soyons dans la joie, exultons et rendons gloire à Dieu, car elles sont venues les noces de l'agneau, et pour lui, son épouse a revêtu sa parure. Nous avons mentionné le fait que la joie était le premier mot du christianisme. Réjouis-toi, le Seigneur est avec toi. C'est toujours cette présence de Dieu. Elle sera aussi le dernier mot, si l'on peut dire qu'il y a un dernier mot dans l'éternité. Cieux, soyez donc dans la joie, et vous, les habitants des cieux. Alors concluons. Benoît XVI disait « La foi rend heureux à partir de l'intérieur. » C'est aussi la différence d'ailleurs avec les joies de ce monde, parce que les joies de ce monde viennent de l'extérieur, tandis que la foi rend heureux à partir de l'intérieur. L'image évoquée en introduction de la flamme que nous nous transmettons est éloquente et nous montre la différence entre les joies matérielles et les joies spirituelles. Il y a de bonnes joies matérielles, mais il y a quand même une différence fondamentale entre les deux. Car il n'en va pas de la joie comme d'un gâteau. S'agissant du gâteau, qui peut être une bonne joie matérielle, mais plus on en donne, moins on en a du gâteau. La joie, comme la lumière de la flamme, suit un mouvement inverse. Plus on en donne, plus on en a. La joie du chrétien n'est pas un placebo. Elle est une attitude de fond du chrétien, et c'est la raison pour laquelle elle demeure, même dans la souffrance. Comme l'a dit Père Bernard tout à l'heure, dans un monde triste, nos familles, nos communautés doivent être des lieux de résistance et pour cela des lieux de joie. Nos maisons doivent être des lieux de joie spirituelle, de joie intérieure, de joie exprimée, de joie manifestée, de joie partagée. Joie de l'amour, joie aussi des contradictions et des persécutions. Nous savons, dans quelques jours, ce sera les 100 ans de la promesse scout du Père, 1er août. Nous savons que le scout est maître de soi, il sourit et chante dans les difficultés. Et le Père Sevin, dans le très beau chant qu'il a composé, qui s'intitule « La joie scout », pose la question, c'est une parole du chant, « Faut-il des difficultés pour qu'un scout aime à chanter ?» Nous prions souvent avec le psaume 4, le samedi soir accompli, qui est une description assez saisissante de notre monde qui cherche la vraie joie. Donc le psaume dit « Beaucoup demandent qui nous fera voir le bonheur ?» Cette recherche du bonheur. Et le psaume nous donne la réponse. « Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. » Et il ajoute « Tu mets dans mon cœur plus de joie que toutes leurs vendanges et leurs moissons. » C'est-à-dire les vendanges et les moissons, à l'époque, c'est les joies matérielles suprêmes. Donc, Dieu met dans nos cœurs plus de joie que toutes les joies matérielles de ce monde. Rappelons-nous, la joie est le premier fruit de l'esprit après l'amour. Benoît XVI disait « Chers amis, la joie est intimement liée à l'amour. Ce sont deux fruits de l'esprit inséparables. » L'amour produit la joie, et la joie est une forme d'amour. Et achevons encore par ces mots de Benoît XVI, c'est la foi qui donne la joie. Quand Dieu n'est pas là, alors le monde se désertifie, et tout devient ennuyeux, et tout est complètement insatisfaisant. On voit bien aujourd'hui qu'un monde sans Dieu s'use de plus en plus de lui-même, qu'il est devenu un monde entièrement dépourvu de joie. La grande joie vient de ce qu'existe le grand amour, et c'est la déclaration essentielle de la foi.